France Inter. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Que vous soyez encore en vacances ou déjà de retour au travail, si vous êtes parent, il y a fort à parier que l'échéance de la rentrée scolaire occupe déjà un coin de votre esprit. Une fois les enfants de retour à l'école, il faudra relancer la machine de l'organisation familiale pour que chacun retrouve ses repères. Et parmi les nombreuses préoccupations logistiques, il y a bien sûr le choix des activités extrascolaires. Alors vous vous questionnez peut-être, quel sport correspondrait le mieux à la personnalité de votre enfant? Quelle activité artistique pourrait nourrir un talent qui se manifeste depuis toujours? Pour certains parents, pas de questionnement sur ce sujet. L'enfant est invité à suivre le même chemin que ses aînés. La famille est alors souvent très impliquée dans la vie sportive de cet enfant. Et si une pression familiale est synonyme de richesse, passion familiale, pardon, est synonyme de richesse et de partage, parfois justement, elle met aussi une pression un peu trop lourde sur les épaules d'un enfant. Quelles sont donc les bonnes questions à se poser pour que notre enfant puisse s'épanouir dans une pratique sportive ou artistique? Ne serait-ce pas le moment de jeter un œil à notre propre planning? Un emploi du temps trop rempli pour les parents et les enfants ne risque-t-il pas de mettre en péril l'équilibre de toute la famille? Beaucoup de questions ce matin auxquelles nous allons répondre et on répondra aussi à celles que vous voudrez bien nous poser au 01 45 24 7000 ou sur l'appli Radio France. Nous sommes le mardi 19 août. Grand bien vous fasse en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
J'ai vu une copine, elle est désespérée parce qu'elle n'a pas réussi à inscrire son môme au yoga en anglais. Il a 4 ans, le yoga en anglais, le poney en allemand, la poterie en chinois. Ça s'arrête quand? Ah, puis ça coûte une blinde. Tu vends un rein pour acheter tout l'équipement de rugby et une fois que t'as tout, ton gamin il fait « Je veux plus y aller ». Moi je veux bien payer des activités, mais pourquoi on les inscrit pas à des trucs utiles? Ménage, repassage, carrosserie, cirage. Franchement, les seules activités qui peuvent vraiment servir pour la suite, c'est survie en milieu hostile. Mon fils, il pleure quand il arrive pas à ouvrir un yaourt. Autant vous dire qu'en cas de guerre nucléaire, ça va être vite dur. Il reste la place en baby Krav Maga.
Olivia Moore grossit un peu le trait et encore, je suis sûre que la poterie en chinois, ça doit bien exister quelque part. Alors ce matin, on va se poser les bonnes questions pour peut-être, je dis bien peut-être, que l'année 2025-2026 soit synonyme de plaisir. Plaisir pour nos enfants qui, en plus de l'école, pourront s'épanouir grâce à une ou plusieurs activités qui leur plairont. Sans oublier les parents qui peut-être, je dis bien peut-être, penseront à garder un peu de temps pour eux. On va parler de tout ça avec nos invités. Bonjour Marine Darna.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, fondatrice du cabinet 100% Visio, un cabinet pluridisciplinaire autour de la santé des enfants et des familles avec des consultations en ligne. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes, faites partie de la famille Grand Bien vous fasse, que j'ai rejoint moi récemment, très récemment. Vous êtes également rédactrice en chef des magazines jeunesse Poppy, Pomme d'Api et Pomme d'Api Soleil. Bonjour Elodie Adler.
Bonjour.
Vous êtes à distance ce matin parce que vous êtes pédiatre. Vous êtes aussi autrice de « La santé de mon enfant sans stress » à paraître chez Attier le 17 septembre. Et votre podcast « Pédiatime » qu'on pourra découvrir dès le 2 septembre prochain. On est également en ligne par téléphone avec Ilyes Ramdani. Bonjour Ilyes.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la formation du club de football d'Aubervilliers et vous prendrez la parole ce matin pour nous parler de la bonne distance à garder avec la pratique sportive de notre enfant. Pratique sportive, activité extrascolaire.
Voilà, tu mets les deux mains sur le nœud, tu peux mettre les pieds à plat, tendre un petit peu les jambes.
Des activités extrascolaires, beaucoup d'enfants en pratiquent une ou plusieurs pendant l'année.
Qu'est-ce que tu vas faire comme activité cette année?
L'escrime. J'ai fait c'est ma troisième année que je vais faire.
Je vais faire de la comédie musicale, du théâtre et peut-être qu'avec papa, on va revenir des fois ici.
Inscrire son enfant à une activité sportive, c'est aussi le moyen de le tenir éloigné des écrans. Mais attention à ne pas trop surcharger son emploi du temps, surtout s'il est encore à la maternelle.
Un extrait du JT de France 2 du 26 août 2022 qui, comme nous ce matin, se penchait sur le casse-tête des activités extrascolaires. On a entendu parler de maternelle. La maternelle, c'est de 3 à 6 ans. Marine Darna, à partir de quel âge est-il intéressant pour un enfant de pratiquer une activité sportive ou artistique?
Alors, au niveau maternel, on est vraiment sur aucune obligation, de la découverte, du ludique. Donc, si l'enfant n'est pas du tout intéressé, on va se mettre aucun stress et on peut largement attendre la primaire. Par contre, si quelque chose intéresse l'enfant, on va pouvoir y aller. On garde bien en tête que ça soit vraiment de la découverte, du ludique, plutôt de la motricité, plutôt qu'une activité sportive à proprement parler.
Les activités sportives dont vous parlez, elles sont accessibles majoritairement à partir de 6 ans. En tout cas, il y a un choix qui est beaucoup plus important à partir de 6 ans. Docteur Elodie Adler, est-ce que vous savez pourquoi, avant 6 ans, il y a moins de, l'offre est moins importante pour les enfants ?
Oui, donc forcément, puisqu'il faut voir les attraits des enfants, c'est peut-être plus compliqué de faire, par exemple, de l'exposition avant 6 ans. Il faut aussi que l'enfant puisse découvrir son corps, et c'est vrai au niveau de la motricité au niveau fine ou la motricité globale, certaines activités ne peuvent pas correspondre à des enfants avant 6 ans. Et surtout, c'est de la découverte, et il faut que ce soit fait en toute bienveillance.
Bien sûr, bienveillance, le maître mot, ça on est bien d'accord. Sur les plans physiques et cognitifs, on peut se demander si un enfant entre 3 ans et 6 ans n'est pas déjà suffisamment stimulé à l'école maternelle.
C'est vrai, il y a déjà énormément d'activités. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les activités qui sont périscolaires, puisque parfois certaines écoles arrêtent à 15 heures. Mm-hmm. Et on peut proposer en fait une activité physique modérée à partir de 15 heures à 16 heures, par exemple, en temps périscolaire, pour qu'ils découvrent soit du sport, soit du dessin, soit du théâtre, sans surajouter une charge importante, et ça reste dans le temps modéré périscolaire. Donc c'est vrai que ça rajoute moins de stress aussi pour les parents, puisque c'est inclus dans les activités de l'école.
Oui, et puis il faut se dire que quand même pour les enfants en maternelle, on est en adaptation à chaque âge de chaque année, en petite section, en moyenne section, et que place au repos, puisqu'ils arrêtent la sieste aussi à ce moment-là, je crois, en moyenne section à peu près. Gwenaëlle Boulet, chez Pomme d'Api, vous proposez beaucoup d'activités à faire avec les enfants. Pouvez-vous nous rappeler en quoi elles sont essentielles à l'enfant ?
Ben, je crois que sur la petite enfance, ce qui est important, c'est que vraiment l'enfant, il a besoin de relations. C'est vraiment la tranche d'âge, alors encore après bien sûr, mais la petite enfance, c'est vraiment la recherche de la relation. Donc par exemple, sur ce qui est activité extrascolaire, il y a quelque chose qui est intéressant sur les tout-petits, je trouve, c'est tout ce qui est proposé à faire ensemble, type les bébés nageurs, bébés gym, etc. J'ai envie de dire, c'est pas forcément que l'enfant, les enfants quand même, tous les petits en général aiment ça quand même, hein. Et c'est surtout que ça permet aux parents, de la sociabilité autour de l'enfant. Parce que quand on est avec un petit, on a vite fait, je veux pas dire, mais au parc, de se tourner les pouces, de s'ennuyer. Enfin, c'est pas toujours génial pour le parent, les activités avec le tout petit. Donc, pour le coup, d'être dans l'eau, d'avoir du bébé gym, etc., ça permet une sociabilité autour de l'enfant et donc de prendre du plaisir. Parce que, rappelons-le, on est là quand même pour prendre du plaisir. Donc, ça, c'est des activités que je trouve intéressantes. Après, sur l'intérieur, effectivement, je trouve actuellement qu'on a aussi beaucoup délégué l'activité extrascolaire. On a vu des cours de cuisine arriver pour les petits, les enfants, etc. Ou des cours de dessin, il y a plein d'activités qu'on peut faire à la maison, tranquillement. Et l'enfant, le petit, va être très demandeur de ces activités qui, avant tout, sont de la relation avec le parent. Donc effectivement, nous, dans le magazine Pomme d'Api, on va beaucoup proposer des recettes de cuisine, des
bricolages. Dans le magazine de septembre, d'ailleurs, on a une recette de cuisine,
une recette
je crois.
Que j'aime beaucoup, parce qu'il s'agit de faire des lettres, de fabriquer des lettres avec de la pâte à manger. Hein. Et donc l'idée, en plus, derrière ça, c'est de commencer à aimer les lettres, aimer les mots, donner du goût aux mots. Donc il y a toute une symbolique derrière que j'aime beaucoup. Mais effectivement, on va donner beaucoup de recettes de bricolage parce que, pour la motricité fine, c'est important de patouiller. Ne l'oubliez pas, on parle des écrans, mais c'est vrai qu'un enfant, il a besoin d'appréhender le monde avec ses mains, avec sa langue, avec tous ses sens.
Avec tous ses sens, bien sûr.
Donc, j'ai envie de dire des fois, ne vous cassez pas. Pourquoi aller chercher 1000 activités à l'extérieur, se tordre dans tous les sens pour faire rentrer un truc dans l'emploi du temps, alors que vous sortez de la pâte à modeler à la maison pour un petit de 5 ans? Franchement, il n'y a rien de mieux, quoi.
Vous faites la meilleure publicité des activités parents-enfants à la maison, Merci. Je tiens à vous le dire. Marine Darna, on peut aussi se demander si un enfant à cet âge-là, entre 3 et 6 ans, il a besoin d'aller vers les autres et d'avoir une activité au contact avec d'autres enfants, contact qu'il a déjà à l'école.
Besoin, non. Je rejoins tout à fait.
Et c'est bien parce que ça enlève de la pression aux parents. Il n'en a pas forcément besoin.
Ça, il en a déjà en classe. C'est des âges, par exemple, en petite section, on ne sait pas encore jouer avec l'autre. On dit que l'enfant joue à côté de l'autre enfant. C'est tout l'idée de la maternelle, c'est de se socialiser, de comprendre comment j'interagis avec les autres, comment je rentre en relation. Et mon besoin principal en tant qu'enfant de maternelle, c'est mon lien avec mes parents, avec mon environnement familial. Il y a déjà assez à faire dans la famille, avec les amis, avec l'école, que de se dire il faut qu'ils trouvent une activité pour avoir un cercle en dehors. Ça va être intéressant, on en parlera pour
après,
la primaire.
Oui, pour les plus âgés.
Voilà, mais en maternelle, aucun stress là-dessus.
Et alors, puisqu'on se parle des activités à faire à la maison, il y en a une qu'on oublie parfois, et pourtant elle est essentielle, et là je sais que Gwenaëlle Boulay va se jeter dessus, c'est la lecture parent-enfant. Dans chaque magazine que vous proposez, il y a des histoires avec des héros que nos enfants connaissent d'ailleurs, pour la plupart, ou pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus, sur l'importance de lire avec nos
enfants?
Alors
là, ce serait une émission à part entière, il faut qu'on revienne sur la lecture.
Et on a une minute.
Non, mais évidemment, sortir... Effectivement, on pourrait se dire à la maison, soyons créatifs, c'est-à-dire que on peut aussi aller à la bibliothèque, j'ai envie de le dire, c'est une
vrai,
activité
c'est
extrascolaire,
vrai.
On peut se mettre dans l'emploi du temps familial, ça coûte
à moindre coût,
pas cher,
bien sûr.
Ça coûte pas cher, la plupart des villes même, dans la plupart des villes, c'est oui. presque gratuit, je crois, quand vous habitez dans la ville, donc voilà. On peut aussi se dire, bah, tiens, le samedi matin, on va pendant une heure à la médiathèque. Et ça, il y a souvent des coins pour les petits dedans. Laissez votre enfant, je pense aux tout petits de 1 an, 2 ans, 3 ans, laissez votre enfant aller vers les livres, laissez-les choisir ce qu'ils ont envie de lire, laissez les plus grands de 10 ans aller dans le coin des petits, avoir des espaces de régression et prendre chez eux des albums de 5 ans, soi-disant pour les 5 ans, 6 ans, alors qu'ils en ont 10. Laissez-les choisir tous ces livres-là, ça c'est des moments extraordinaires. Et évidemment, la lecture avec des petits, ça se commence, c'est des habitudes qui se prennent ensemble, c'est beaucoup de bonheur à vivre ensemble, faut pas le vivre comme une pression non plus, mais ça peut être par exemple de se dire, bah tiens, cette année, le samedi matin, on bouge pas de la maison, on reste en pyjama.
Et on lit des histoires.
Et on se lit des histoires. Mmh. Et bien ça, c'est une activité extrascolaire, entre guillemets,
extra-scolaire,
mais qui peut être au sein de la famille.
Et un grand moment de partage parents-enfants, puisqu'évidemment, à cet âge-là, l'enfant ne sait pas lire. Quoique.
Et on enlève l'écran mains en tant qu'adulte.
Gwenaëlle, est-ce que vous lisez dans mes pensées? C'est ma question. Parce que j'allais justement en parler, évidemment. Elodie Adler, on ne peut pas ne pas commencer cette émission par faire un petit rappel du bon usage des écrans avant 3 ans, avant 6 ans, comment on les utilise à la maison?
C'est très clair, hein. C'est vraiment les recommandations. Il y a tout depuis 2025, il y a des grosses recommandations qui ont été annoncées. En fait, c'est vraiment pas d'écran avant 3 ans et un usage...
Une télé en fond dans le salon?
Alors justement,
non.
Alors justement, ça c'est presque pire en fait. Il y a eu des grosses études, par exemple sur 18 000 enfants, c'est la cohorte ELF, où ils ont montré des chiffres hallucinants, qu'en fait, des enfants de 2 ans, en fait, il y avait une heure par jour d'écran, dont 86% c'était de la télévision. Donc ça veut vraiment dire, dont le fond. Et en fait, il y a même eu des études récentes, docteur Martineau qui a sorti une étude sur une cohorte qui était un petit peu plus petite, qui montrait que au-delà de l'écran et du temps d'écran, c'était l'importance du contexte d'exposition et de l'interaction avec les enfants, en fait. Et le fait d'avoir une télé en fond, c'est pire. Il y avait des retentissements, en fait, sur le langage à 2, 3 et 6 ans.
Yasmine Ouglisse.
Papa, je veux apprendre à patiner.
Tu ne pourras plus faire marche arrière une fois que tu auras commencé.
Grand bien vous fasse.
Il faudra t'impliquer complètement, fils. Tu es sûr d'être prêt pour ça?
Oui, enfin, je crois.
Sur France Inter.
Chouette. On attaque demain.
À partir de 6 ans, la palette d'activités proposées aux enfants est très vaste. Des activités sportives aux arts de la scène, en passant par la musique et le tout, parfois même en apprenant une langue étrangère. Comment faire les bons choix? Vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
Merci, mais t'es fatigué ou quoi? Alors,
allez,
déplace-toi.
Sur le bord du terrain, les parents sont parfois les plus stressés. À la fin de l'entraînement, c'est sûr, les enfants en auront plein les oreilles. Mais surtout plein les jambes.
Bah, il se défoule quoi.
C'est piscine, ping-pong et je pense que je vais faire judo.
Peut-être au départ je vais un peu le forcer parce que j'aimerais bien qu'il se dégourdisse un peu, on va dire. Et puis si ça lui plaît pas, on trouvera autre chose.
Un extrait du JT de 20h de France 2 qui date de 2003. Il y a plein de choses hein, dans cet extrait. Il y a une variété de sports qui est énumérée. Il y a aussi le fait de forcer l'enfant. Pas forcer l'enfant, c'est des questions qu'on va se poser, bien évidemment, immédiatement d'ailleurs. Hein. Élodie Adler, en tant que pédiatre, pouvez-vous nous dire ce qui devrait nous amener à choisir une activité plutôt qu'une autre pour notre enfant ? Et je pense que ma question est mal posée, parce que je viens de dire choisir une activité pour notre enfant.
Je pense qu'il faut d'abord voir la personnalité de l'enfant est-ce qu'il a des difficultés particulières ou des petites particularités ou des troubles du comportement ou il peut avoir une hyperactivité. Donc je pense qu'il faut vraiment écouter son enfant. On le connaît depuis toujours, donc on voit comment il interagit. Et il faut lui proposer les activités. Et ce qui est assez bien, c'est qu'en général, il propose des cours d'essai pour que l'enfant teste. Souvent, malheureusement, il n'y en a pas assez, hein, parce qu'on se rend compte que un n'est pas forcément suffisant. Il faut au moins 2-3 cours pour que l'enfant puisse dire si vraiment il aime cette activité. Et puis, il faut lui proposer un maximum de choses. Mais en même temps, il ne faut pas le surcharger et lui mettre trop de pression. Il ne faut pas non plus lui faire faire le sport que les parents voulaient faire petit, par exemple.
Donc on ne choisit pas pour lui, on choisit avec lui, en fonction de sa personnalité, vous l'avez dit. Quel est l'avantage que peuvent avoir certaines activités par rapport à d'autres au regard de la personnalité de notre enfant ? Par exemple, je pense au sport collectif versus un sport individuel.
Oui, alors vraiment, faut pas non plus forcer l'enfant. Par exemple, si c'est un enfant qui est très timide, à la fois c'est super de lui proposer un sport collectif. En même temps, si il subit ça, il faut pas non plus insister. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est aussi par exemple les sports de combat. Par exemple, ça met de la rigueur, de la discipline. L'enfant peut bien se défouler. Il faut vraiment faire en fonction de son enfant. Et il y a des sports aussi qui apaisent. Par exemple, la natation ou même le yoga. Des sports de précision comme le ping-pong, ça dépend vraiment ce que l'enfant aime dans sa vie de tous les jours. Et je pense qu'il faut partir de sa personnalité et presque de son talent en fait initial.
Mais ça, les parents sont les premiers à pouvoir le décrypter. Vous, en tant que pédiatre, est-ce que c'est des discussions que vous avez avec vos patients ?
C'est assez rare finalement. Souvent, moi, quand je pose la question, ils ont souvent déjà une activité ou pas. Mais s'ils ont une activité, on se rend compte qu'ils la gardent quand même plusieurs années. C'est rare que les enfants changent, sauf on se rend compte qu'il y a un clivage au niveau de l'adolescence. Mais je pense qu'on en reparlera plus tard.
L'adolescence, évidemment, on va en parler. Marine Darnat, en tant que psychologue, est-ce que vous pouvez nous dire si l'envie de l'enfant, elle doit être déterminante dans ce choix ?
Non. L'envie de l'enfant est importante.
C'est marrant, je pensais que vous alliez me dire le contraire. Donc.
C'est ça. Elle est importante, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, qui est aussi lié à l'équilibre familial. Si l'enfant a très très envie d'une activité, mais que pour ça, il faut faire 40 minutes de route, des bouchons, rentrer hyper tard le soir, et que le parent après est stressé, parce qu'on n'a pas fait les devoirs, on n'a pas fait les bains des plus jeunes, ou des tas de choses comme ça, et que finalement la soirée est très très négative pour toute la famille derrière, peut-être autre chose, d'autres questions à se poser, pour se dire, l'enfant a très envie de cette activité-là, mais est-ce qu'elle colle avec notre équilibre familial ?
Ça, c'est une question de planning. Donc, on va parler du planning des parents, évidemment, un peu plus tard. En ce qui concerne l'enfant, donc son envie, elle passe forcément par le fait qu'il connaisse ce sport ou pas, en fait. Comment on fait ?
Et essayer, en fait, l'enfant va aussi voir parfois donc à la télé des sports qui vont lui donner envie. Attention au fait que ces sports-là soient totalement sacralisés et où l'enfant va se dire je veux faire du foot parce que je vois Mbappé, mais va être hyper déçu parce que au début il va être super nul, ce qui est normal. Ou je veux faire du tennis comme les champions et l'enfant.
Ça c'est une motivation qui peut être au début, en tout cas celle de l'enfant. On peut se parler aussi des parents qui ont une passion. Une passion sportive et qui souhaiteraient la partager avec leur enfant. Si l'enfant ne le souhaite pas, doivent-ils renoncer ?
Oui. La passion des parents appartient aux parents. Si l'enfant la partage et que ça devient un élément qu'il apprécie aussi, c'est génial. Ils vont partager quelque chose de formidable tous ensemble. Ça va devenir quelque chose de familial qui va
qui
être partagé, voilà, c'est super. Mais si par contre l'enfant ça lui parle pas du tout et que le parent le force à y aller pour son plaisir à lui, à tous les coups il y a de la pression qui va arriver parce que le parent va se dire bah tiens je veux que tu réussisses en compète peut-être là où moi j'ai pas réussi ou mes parents ne m'ont pas permis moi de continuer parce que financièrement ça allait pas, bah toi attends je te donne tout. Donc,
et tu
vas-y.
Veux pas, ouais.
Et montre-moi que tu déchires. Et donc l'enfant va avoir une pression dans une loyauté très très terrible là-dessus. Il faut que ça plaise à mon parent, alors qu'il prend là aucun plaisir. Il y a rien de mieux pour dégoûter d'un sport et dégoûter d'une activité en général.
Donc ça, c'est vraiment la fausse bonne idée.
Ouais.
Voilà, on partage s'il veut bien partager. Gwenaëlle Boulet, vous avez fait l'expérience du solfège, il me semble. Vous vouliez que votre enfant fasse du solfège.
Oh non, pas du solfège, mais de la musique.
De la musique, ouais. Oui, mais alors, qui dit musique...
Je ne torture pas à ce point, les enfants.
ma mère était prof de solfège, donc on respecte le solfège. Mais c'est vrai que...
La formation musicale.
La formation musicale, absolument. Qui... Enfin voilà, si on veut pratiquer un instrument, il faut passer par là. Pouvez-nous raconter cette expérience?
Ah oui, douloureux. Non, mais pas douloureux du tout. En fait, j'ai envie de remplir les deux plateaux de la balance là-dessus. Si j'ai envie de dire, si je devais provoquer, j'ai envie de dire, si on écoute les désirs d'un enfant, il n'irait pas à l'école et il se nourrirait de glace au chocolat.
Ouais.
Voilà. Donc, le désir d'un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, non, mais surtout quand il a 5, 6 ans, etc. Donc, moi, c'est vrai que d'un côté, j'ai envie de dire, l'éducation, c'est aussi souhaiter transmettre des choses à son enfant. Et si, par exemple, la musique fait partie de l'univers familial, d'une envie qu'on a transmettre tout comme, mais je le mets sur le même son, par exemple, j'ai envie que mes enfants sachent lire, eh bien j'ai envie qu'ils sachent lire la musique. On peut le remettre en question, on peut se dire qu'après tout, plein de gens dans la vie vivent sans lire la musique et qu'ils vivent
très
bien sans.
C'est votre envie de parent.
Mais mon envie, moi, ça fait partie de l'éducation. Voilà. Donc effectivement, je connais très peu d'enfants, et moi-même quand j'étais enfant, je ne courais pas avec le sourire jusqu'aux oreilles en allant au solfège, comme je ne souriais pas non plus pour aller au caté. Il n'empêche que ça a fait partie d'une éducation, j'en ai fait ce que j'ai voulu après, etc. Donc moi, je pense qu'en tant que parent, on peut aussi se dire, il faut en discuter en couple, mais voilà, est-ce qu'il y a des fondamentaux pour lesquels ça fait partie de l'éducation? Il y a des familles sportives, ils ne vont pas remettre en question le fait qu'il faut que leurs enfants fassent du sport. Donc, de ce côté, moi, je pense qu'on peut se dire en tant que parent, ça fait partie de l'éducation de transmettre des choses. Voilà.
On propose.
Ensuite, il y a la question de la persévérance. Quelle est la différence entre, idem, moi, tous les enfants, et moi, quand j'étais enfant, j'ai voulu arrêter 15 000 fois le conservatoire, je pense. Parce que c'est difficile, parce que ça met, ça vient provoquer de la résistance. Et en particulier, j'ai envie de dire, chez les enfants qui ont des facilités à l'école. Des enfants qui ont beaucoup de facilités à l'école, ça ne leur demande pas d'efforts, ils suivent tout seuls. Et bien, la musique, ça demande des efforts à tout le monde.
Bien sûr.
Le sport aussi. Donc, moi, par exemple, de se dire qu'on souhaite une activité pour notre enfant qui va opposer de la résistance, personnellement, je trouve ça intéressant.
Bah voilà, mais c'est je pense que Marine Darnat, en tant que psychologue, vous allez nous dire la même chose. C'est-à-dire que ce que n'aiment pas les enfants parfois dans la pratique d'une activité, c'est le cadre, c'est les règles, c'est les difficultés. Et c'est peut-être là aussi l'école de la persévérance.
Ah mais absolument, c'est le grand mot qui fait souvent peur, et il ne faut pas, la frustration. La frustration, c'est la vie. L'enfant en a besoin, l'adulte en a besoin. Et donc aussi se confronter à de la difficulté. Et je rejoins tout à fait les enfants pour qui tout coule de source à l'école et donc qui n'apprennent pas à apprendre. C'est le pire. Dans une scolarité, c'est ne pas savoir comment apprendre. Donc dans ce cas-là, à côté, dans une activité qui vient me chercher un petit peu, ben c'est hyper formateur pour l'enfant, même pour sa vie scolaire et sa vie professionnelle future.
Alors, il y a la persévérance, l'école de la persévérance, et apprendre ça. Élodie Adler, vous êtes toujours en lien avec nous ?
Tout à fait.
Sur le plan de la santé, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi pratiquer une activité sportive régulièrement, c'est important pour nos enfants ?
Ah, c'est très très important. Donc, on sait bien maintenant qu'il faut lutter au maximum contre la sédentarité. Et encore une fois, il y a des recommandations hein, sur le temps d'activité minimum, alors que ça peut être des activités mixtes, pas forcément très soutenues ou pas forcément très intenses au niveau sportif. Mais dès même un an, en fait, il faut à peu près
3 heures d'activités variées, à 3-4 ans c'est pareil, et même une heure d'activité un peu soutenue, c'est-à-dire pas besoin de faire une activité, là comme on l'a dit, extrasolaire, mais c'est-à-dire se dépenser au parc. Et en fait, ça reste toute la vie jusqu'à, de 5 à 17 ans, c'est valable également. Au moins une heure par jour. Donc après, ça peut compter évidemment les heures quand on est à l'école, à la cantine.
Parce qu'on se dépense aussi.
Exactement, il faut les inclure. Hein. Mmh. Mais vraiment, c'est très important. Et à partir de 5 ans, ils disent que c'est important, ou même 3 fois par semaine, avec un rythme soutenu, pour que ça joue sur, en fait, les os. En fait, on sait que plus on met des contraintes au niveau des articulations, en fait, on a des os aussi qui sont plus solides, en bonne santé. On sait que ça limite plus tard toutes les maladies cardiovasculaires, l'obésité. On sait que c'est très important pour le développement psychomoteur, pour se rendre compte au niveau de son corps, en fait, la proprioception. Et au niveau psychologique, c'est très, très important d'avoir une activité aussi au niveau du lien social, ça baisse l'anxiété. Vraiment, les recommandations sont assez claires sur les activités et sur
le fait
bienfaits.
Aussi que c'est pour l'adulte qu'il deviendra, puisqu'un récent rapport sur la sédentarité le dit. Nous, les adultes, nous ne bougeons pas assez. Et d'ailleurs, demain, nous proposerons une émission en ce sens, car il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du sport, et je m'inclus dans cette démarche.
La bonne résolution de rentrée.
Oui, mais pas qu'une bonne résolution. Vous allez écouter demain, hein, Gounelle. Vous ne serez pas là, mais j'espère que vous écouterez. On a parlé là de l'importance du sport pour la croissance. La croissance, elle ne s'arrête pas à la porte du lycée. Et pourtant, il y a beaucoup d'adolescents qui arrêtent le sport à ce moment-là parce qu'ils ont une charge de travail qui est plus importante. Marine Darnin, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que psychologue à quel point c'est important pour la santé mentale de nos ados qu'ils pratiquent une activité en dehors du lycée ou du collège ?
C'est très important parce que, pareil, on parlait de sédentarité, les adolescents ont déjà des journées très importantes de cours où ils sont assis toute la journée, plus tout ce qui est charge de travail, devoirs, etc. Et après, les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, où à nouveau, ils sont sédentaires. Donc avoir des activités où ils vont pouvoir bouger, c'est vraiment important, effectivement, pour le physique, mais aussi, et je rejoins notre pédiatre, pour tout ce qui est donc cortisol, donc abaisser le niveau de stress du corps. Donc ça, c'est très important pour pouvoir s'épanouir et garder un environnement adapté. Si je suis moins stressée, si je suis bien dans mes baskets, je vais aussi avoir envie de m'ouvrir aux autres, de continuer à avoir du lien social, à pas m'enfermer dans ma chambre, à avoir envie de sortir, de voir mes copains, etc.
Yasmine Ouglis.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
J'éprouve comme un changement dans mon corps et une sorte de feu dans tout mon corps.
Grand bien vous fasse.
Je vole, juste comme un oiseau.
Sur France Inter.
Regarder son enfant et choisir une activité en fonction de sa personnalité et de ses besoins, on l'a vu avec nos invités, c'est indispensable. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour que l'année se passe bien. Et ça ne concerne pas que les enfants. On a reçu beaucoup de messages en ce sens. Pour les enfants avant 11-12 ans qui ne sont pas encore autonomes, se pose la question de l'accompagnement à ces activités. Évidemment, l'accompagnement est assumé par les parents. Marine Darnin, en tant que psychologue, est-ce qu'ils doivent... Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais considérer leur emploi du temps à eux avant d'inscrire leur enfant à une activité.
Moi, je trouve ça vraiment important. C'est de garder en tête que est-ce que l'activité qui va être choisie rentre dans notre quotidien et fait que ça va être un moment de plaisir pour tout le monde. Parce que si c'est hyper compliqué d'amener l'enfant à l'autre bout de la ville pour son activité, le jour où il va avoir la flemme, où il va faire froid, où il pleut, il n'a pas envie d'y aller. Moi, parent, si c'est compliqué pour moi, je vais avoir tendance à faire « oui, bon, t'as raison, on va rester à la maison ».
C'est vrai.
Et on fait ça une fois, deux fois, trois fois, et l'activité, c'est foutu, on n'y remet plus les pieds. Mm-hmm. Que si, moi, parent, la contrainte est faisable dans mon quotidien, quand l'enfant va me dire « ah, là, j'ai pas trop envie, je suis un peu fatiguée », on va avoir moins tendance à aller dans son sens et dire « bah si, allez, tu sais, t'aimes pas trop au début, puis après, t'es content ». On se motive ensemble, et donc là, ça permet aussi d'être plus persévérant dans son année.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faut pas s'oublier en tant que parent et se prendre en compte dans cette situation-là. Mais il faut quand même aussi se dire que les parents sont aujourd'hui confrontés à l'image du parent parfait, notamment véhiculée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident pour eux de se considérer.
Bien sûr. Et franchement, c'est important qu'on puisse bouger ces lignes-là. Et ce n'est pas être un mauvais parent que de dire à son enfant « écoute, oui, tu as envie de faire du judo ». Sauf que moi, je ne peux pas m'en sortir de t'amener à 30 minutes de là, alors que ton frère est à l'autre bout, ta sœur est là-bas.
Et ou que je suis maman solo et que je ne peux pas...
Exactement,
voilà, pas.
Et que le repas ne va pas se faire tout seul, les bains non plus. Donc écoute, on va regarder ensemble. Et puis je présélectionne, comme on se disait à la pause, des activités dans notre ville qui sont adaptées et compatibles avec l'emploi du temps. Et là-dedans, on regarde ça ensemble.
Vous, Gwenaëlle Boulet, c'est ce que vous avez fait?
Ouais, moi j'ai souvent fait ça. C'est-à-dire que j'ai, en bonne journaliste, j'allais sur le site, je regardais toutes les activités, je regardais ce qui était possible, compatible avec notre emploi du temps familial, et au sein de ces possibles, là, ils avaient le choix. Ce qui fait qu'en fait, il y a la notion de choix, c'est comme devant des glaces, hein. Je trouve que trois choix, c'est très bien pour des enfants, plutôt 99. Hein. Voilà, au sein des possibles, on offre le choix. Moi, on est à peu près réussi à s'en sortir avec ça. Il y a autre chose qui est possible aussi, je le dis, c'est le... quand on peut pas du tout, par exemple, on a un enfant qui a très envie de faire du judo, du foot, de la comédie musicale, d'essayer quelque chose, et qu'on peut pas le rentrer, c'est d'essayer de trouver un stage d'une
pendant
semaine pendant des vacances scolaires ou un truc comme ça. Et ça, souvent, c'est vachement chouette parce que déjà, un, il peut essayer l'activité et peut-être que se rendre compte que c'est pas à la hauteur de ses rêves, ou en tout cas, au contraire, commencer à se dire, bah, ça, j'aime vraiment. Et du coup, trouver soit des colos l'été, soit des petits stages, ça peut être aussi un pendant par rapport à l'activité qui va durer toute l'année. Voilà, c'est un bon. Ouais. Voilà.
Vous êtes vraiment rempli de bonnes idées.
Oh, mais
là, j'adore.
Moi, je dis ça, mais je me revois encore avec.
Bah oui, mais c'est ça, c'est ça.
Le gamin que tu réveilles de la sieste pour accompagner l'autre à la truc. Et là, tu t'en veux, tu t'en veux.
C'est pas pour rien que vous avez cette chronique Ma vie de parent, qui est disponible d'ailleurs en podcast dans l'univers Radio France. Alors voilà, les parents, parfois, ils se mettent la pression, mais quand ils se la mettent pas à eux, ils la mettent parfois à leur enfant.
Mais passe-moi. Plus vite, Nabil, lâchez. Reviens. Technique, je t'ai dit. Voilà, lâche. Voilà, passe pas. Oh oui, à faute, là. Tire. Demande, va dans l'axe. Va, Sylvie, va. Vas-y, va, deux. Départ, tire.
Voilà ce qui se passe parfois aux abords d'un terrain de football que je fréquente moi-même régulièrement le week-end. On est en ligne avec Ilyes Ramdani, responsable de la formation au football club municipal d'Aubervilliers. Bonjour, Ilyes.
Bonjour Yasmine.
Alors vous encadrez des centaines d'enfants de 6 à 18 ans et ce matin vous vouliez attirer l'attention des parents sur la pression qu'ils mettent parfois à leurs enfants dans le cadre de cette activité de football.
C'est sûr que l'extrait que vous avez choisi me rappelle un peu tous mes samedis matins. c'est un vrai sujet parce qu'on consacre honnêtement dans les clubs amateurs en général, beaucoup sur le foot, hein, moi je parle surtout de ce que je connais, on consacre une grande partie de notre énergie aujourd'hui à aider les parents à trouver la bonne place. Quand ils sont trop loin, c'est-à-dire quand ils sont complètement absents de l'activité, ça pose des problèmes, parce qu'on a quand même besoin qu'ils soient là, on a quand même besoin d'une relation entre l'éducateur, le parent et l'enfant.
Oui, c'est pas une garderie. Hein.
C'est pas une garderie, on a besoin qu'ils soient là, parce que bah déjà sur le plan de la relation avec l'enfant, l'enfant quand il réussit quelque chose, qu'il croise le regard du parent, il y a un truc de fierté, une interaction qui est hyper utile, productive, y compris pour amener les enfants à se dépasser. Et on a aussi besoin d'eux pour des raisons très pragmatiques. On a besoin d'eux parce qu'ils participent aux déplacements, parce que c'est eux qui achètent l'équipement à leurs enfants, etc. Donc on a besoin qu'ils soient partie prenante de l'activité sportive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt à réguler dans l'autre sens, avec des parents qui sont très, très présents, de plus en plus présents. Et ça génère toute une série de problèmes, parfois.
Alors, on voit de plus en plus aux abords des stades des panneaux s'adressant aux parents et non aux enfants. J'en lis un que j'ai photographié. « Maman, papa, je suis là pour m'amuser. Je gagne, je perds. Et alors, je ne suis pas un champion, je suis votre enfant. » Les parents dépassent donc les bornes parfois. C'est de la violence verbale. Comment ça se manifeste?
Parfois, ça se manifeste par quelque chose qui peut paraître tout à fait louable au début, c'est une forme d'énergie, de passion des parents en tribune, où on va en fait plaquer une sorte de regard d'adulte sur le loisir des enfants. C'est-à-dire qu'on va, c'est-à-dire certains parents, les parents, et parfois il y a un effet de groupe aussi autour des terrains, dans les tribunes, on va regarder l'activité sportive de l'enfant comme des supporters presque, avec tout ce que ça génère de bon et de mauvais. C'est-à-dire qu'il y a de l'encouragement, et puis il y a aussi une grande pression qui est mise sur la gagne, sur la compétition, parfois sur l'arbitrage, parfois sur les choix de l'éducateur, etc. Et ça, souvent les parents ont du mal à comprendre que l'enfant n'a pas du tout cette grille de lecture-là. En tout cas, il l'a pas initialement. Il l'a si malheureusement on le conditionne à ça. Mais l'enfant, il vient pour jouer, il vient pour rigoler avec ses copains, il vient pour marquer un but, il vient parce qu'il aime les célébrations de but qu'il a vues à la télé, il a envie de faire les mêmes.
C'est vrai.
Et l'enfant, quand il perd un match 5-6 ou 7-5 contre le club d'à côté, 5 minutes après, il oublie, il passe à autre chose, etc. Sauf quand soit ses éducateurs, soit les parents mettent quelque chose autour de la défaite, par exemple, qui est complètement négatif, mettent une pression sur le résultat, mettent une pression sur l'arbitrage. Et là, ça génère des choses qui sont, pour l'enfant, potentiellement dévastatrices en termes de rapport au sport, de rapport à la victoire, à la défaite, etc. Et pour le climat général dans les associations, dans les clubs amateurs, quelque chose qui peut être dangereux et qui va jusqu'à, pour reprendre votre mot, des violences verbales. Il y a eu des violences physiques aussi. Il y a eu une dizaine de cas qui ont été médiatisés, en tout cas dans les clubs amateurs l'année dernière. Donc,
envers les éducateurs, d'ailleurs, j'imagine. Alors, il suffit aussi d'approcher de près ou de loin un club de football pour entendre parler du fameux projet Mbappé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ouais, ça, c'est encore un cran au-dessus dans le surinvestissement des parents au foot. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je prends par exemple ce que je connais en région parisienne, dans quasiment tous les clubs amateurs, il y a au moins un exemple d'un jeune qui a commencé le foot là et qui est ensuite devenu footballeur professionnel. Et ça, aujourd'hui, les enfants, garçons ou filles d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, avec la télé, ils ont accès à ces espèces de rôles modèles. Et donc, ça crée une forme d'ambition, voire d'injonction à la réussite, qui se transforme en projet Mbappé, où le parent comprend qu'il y a une possibilité, en tout cas, il y a un chemin. Alors, on a beau leur expliquer que statistiquement, c'est un enfant sur 4 ou 5 000. Mm-hmm. C'est 4 ou 5 000, les statistiques de la fédération. Mais comme il y a une chance quand même si c'est sur 5 000, et ben on va la jouer à fond. C'est un peu comme les jeux à gratter. Donc les parents y vont et le projet Mbappé, c'est un peu le symbole de tout ça, c'est-à-dire on y va, on équipe l'enfant, on l'inscrit au foot, on veut qu'il s'entraîne. Nous on a des parents honnêtement qui nous demandent, qui nous exigent presque 3 entraînements par semaine. Nous on trouve que pour la vie de famille, pour la réussite scolaire, c'est trop pour un enfant avant 13-14 ans, avant d'atteindre vraiment des niveaux de compétition, c'est beaucoup trop de venir 3 fois par semaine au club de foot. Mais les parents veulent, et donc quand on ne leur donne pas, aujourd'hui il y a des académies privées qui se mettent en place, il y a des coachs spécifiques à côté, et on va préparer le gamin sur le plan athlétique, etc. Ça, c'est le projet Mbappé, et c'est l'injonction totale à la réussite, l'obligation presque de devenir footballeur professionnel.
En oubliant ce qui devrait, et on l'a dit tout à l'heure, rester au centre de la pratique, c'est le jeu, c'est le plaisir. Merci beaucoup, Ilyes Ramdani, parce que voilà, vous avez remis les choses en perspective, et je pense que c'était important qu'on tienne ce discours ce matin, et on viendra peut-être, le samedi matin, soutenir le club d'Aubervilliers, dont vous êtes responsable. En tout cas, vous êtes responsable de la formation. Marine Darna, vous êtes psychologue. Ilyes Ramdani, il a parlé de ce regard de parents qui est très important pour les enfants. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus, mais de manière positive ?
Effectivement, on le voit, quand on regarde ses enfants au sport ou à la musique, ils viennent chercher du regard, et je trouve toujours hyper émouvant, mais que ça soit son enfant ou un autre, quand il capte le regard du parent, le visage de l'enfant change, mais totalement. Donc on voit à quel point c'est important pour eux qu'on soit là, qu'on les regarde. C'est pour ça aussi que dans le choix de l'activité, c'est bien aussi que le parent puisse se projeter. Est-ce que j'ai envie de passer mon samedi au bord d'un terrain de foot ou au bord d'une piscine? Est-ce que mon enfant va croiser mon regard et que je vais être souriant et que je vais être content d'être là, ou est-ce que je vais être derrière mon téléphone parce que je m'ennuie à mourir?
Oui.
Je trouve que ça compte aussi dans le plaisir partagé et dans ce regard qu'on peut donner à l'enfant. Parce qu'effectivement, il a besoin de sentir qu'il y a un échange qui est fait.
C'est pas qu'une implication organisationnelle pour les parents, c'est une implication aussi émotionnelle, d'un regard sur notre enfant, effectivement, qui est très important. Gwenaëlle Boulet, on peut aussi aborder un autre aspect, c'est celui de la compétition. Tous les enfants ne sont pas faits pour évoluer dans un système compétitif. Vous, avec votre enfant, vous avez trouvé une activité qui lui permettait d'être en loisir total.
Ouais, et juste pour enchaîner là-dessus, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ou au contraire l'investissement, c'est-à-dire que on va soit avoir des activités dans lesquelles mais l'enfant, on sent qu'il a besoin de ce regard, de ce partage, soit nous par exemple, on a un aîné, on n'est pas du tout foot à la maison, qui a choisi le foot, et je pense qu'il s'est ouvertement choisi un monde parallèle dont personne n'en avait un peu rien à faire à la maison, et que justement c'est ce qui le libérait de tout, et quand on lui a quand même proposé, mais attends, on voudrait bien aller te voir quand même en match une fois, Ah non, non, mais hors de question. Et je crois que c'était... Enfin, il faut aussi respecter ça dans les envies des enfants. C'est qu'il y a des enfants qui vont plutôt avoir envie de se créer une bulle. Vraiment, quand je dis un monde parallèle avec ces langages, ces codes. Quelqu'un qui va faire de l'équitation, par exemple, c'est tout un monde. C'est un langage, c'est des codes. Enfin bref, tout le monde a ses codes. Donc, il faut respecter ça aussi, je trouve. Cette envie d'être à part de la famille ou au contraire... Enfin, ça, je trouve que c'est un événement important. Et après, vous me disiez, c'était... La question.
Non, c'était de ne pas forcément avoir envie d'être dans un système compétitif. Oui. Mais ce que vous m'avez dit là, ça me rappelle autre chose. Avoir un regard sur l'activité de ses enfants, c'est important à plusieurs niveaux. Et on en parlait tout à l'heure. Vous avez une réflexion très juste. Vous m'avez dit qu'il y a des questions quand même à se poser si l'enfant ne veut plus aller à l'activité.
Ouais, ça aussi, c'est intéressant. Pour moi, alors, il se trouve que c'était un moment où je travaillais beaucoup sur les sortes de violences sexuelles faites aux enfants, etc. Et donc, en gros, c'était quoi les warnings? Et j'avais une psy qui nous avait parlé de ça et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était par contre de se dire quand un enfant qui aimait une activité, en tout cas il allait sans rechigner, etc., tout à coup n'a plus du tout envie d'y aller. Alors ça peut être un jour particulier, il est fatigué. Moi, à titre personnel, j'ai toujours mis en place un joker par an. C'est-à-dire que les enfants, ils ont un joker, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, une fois, de dire « je ne vais pas » sans avoir à justifier cette activité. Par contre, c'est le joker, il n'y en aura pas deux. Voilà. Mais en tout cas, un enfant qui, par contre, se met un peu à pleurer, etc., deux fois de suite, trois fois de suite pour aller à une activité, là, moi, je pense qu'il faut commencer à creuser. Par exemple, dans la musique, on peut tomber sur des professeurs qui ne sont pas forcément toujours bienveillants et valorisants pour l'enfant. Il peut y avoir... Donc, d'aller creuser, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le club? Il s'est passé quelque chose de particulier? Enfin, faire parler l'enfant régulièrement pour essayer de sentir les choses. Parce qu'on peut aussi tomber dans des activités qui ne sont pas que bienveillantes. Moi, j'ai vu des entraîneurs de foot hurler sur des mômes, sur des terrains. Et j'ai trouvé
et
que
de natation
pas du
aussi,
tout bien.
Qui peuvent être
foot,
très...
Voilà. Attention, gym, moi, j'ai vécu de la gym où on nous hurlait dessus.
Absolument.
Il fallait se tordre en 10 000 et souffrir pour être des super gymnastes.
Et que dire des juste au corps
voilà. Bon. Donc, je pense qu'il faut... Non, mais ça, quand je dis le regard, c'est il faut quand même bien avoir sûr. Ce regard attentif. Est-ce que l'enfant revient quand même content.
De Est-ce temps qu'il en est temps, épanoui
en fait. De temps en temps, d'aller à la fin de l'entraînement, jeter un œil de loin comme ça, voir s'il a des copains, si machin, etc. Voilà.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Une activité extrascolaire, quelle qu'elle soit, donne l'opportunité à notre enfant de s'épanouir en dehors de l'école, en dehors de la sphère familiale. Et pour certains, ce qui a commencé par être un loisir va devenir une passion. Élodie Adler, revenons aux adolescents. Quelle différence on observe entre un ado passionné et un ado qui n'a pas de centre d'intérêt particulier ?
Oui, en effet, on se rend compte que chez les adolescents qui ont une passion ou une activité qu'ils adorent, ça... permet de vraiment limiter les troubles anxieux. Enfin, ça a été démontré dans des études. Hein. Ça permet de les valoriser, d'avoir un lien social qui est très intéressant au-delà de la famille et au-delà de l'école. Il y a vraiment des meilleures performances, même à l'école, qui ont été révélées dans un second temps. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il y a des enfants qui ont des difficultés à l'école et le fait d'avoir une passion à côté ou une activité qu'ils adorent permet de leur rendre encore, enfin, d'avoir plus encore confiance en eux et ils sont forts dans cette activité et ils sont beaucoup plus épanouis finalement, même si à côté ils rencontrent des difficultés à l'école. Donc ça, c'est important de garder cette passion qu'ils ont sans non plus les sursolliciter. Parce que c'est quand même important, parce qu'il y a quand même les devoirs à faire. Et c'est important pour tous les enfants, même dès la primaire, hein, de laisser un peu du temps à l'imaginaire, de les laisser s'ennuyer un petit peu, de rêver. Donc, il ne faut pas que cette passion se transforme non plus en sursollicitation ni des parents ni de l'enfant et qui devienne excessif.
Vous avez raison de parler de l'importance du temps, de l'ennui, de la rêverie qui stimule, on le sait, l'imaginaire de nos enfants qui est très important. Marine Darna, en tant que psychologue, si on parle de la passion d'un enfant qui peut devenir peut-être un métier pour l'adulte qu'il sera, est-ce qu'on peut l'évoquer en tant que tuteur qui les aidera à bien grandir, cette passion?
Oui, clairement, ça amène une véritable colonne vertébrale parce que ça va venir jouer sur l'estime de soi, la confiance en soi. Effectivement, mon rapport au monde, mon rapport aux autres. Donc oui, c'est des vraies bases solides pour la suite.
Gwenaëlle Boulet, rapidement, vous nous avez parlé de la passion, mais aussi de ne pas se mettre trop de pression à avoir une passion.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, je crois que la société est difficile actuellement. On a du mal. On se dit, nos enfants, il va falloir qu'ils soient originaux. Non, mais il va falloir qu'ils tirent leur épingle du jeu, qu'ils soient originaux. Et pour ça, il va falloir qu'ils se trouvent une passion rapidement et un talent, etc. Je crois que ça, il faut qu'on fasse un petit peu attention. On peut aussi se trouver une passion, une véritable passion, sans que ça se transforme en une profession ou un métier, etc. Et ça, je trouve que c'est important de conserver cet intérêt, cette passion, je ne sais pas quel est le mot exact, pour ce qu'elle est. Et peut-être que l'enfant va rebondir dessus à un moment donné pour en faire quelque chose de professionnel, et peut-être pas. Et moi, je me souviens aussi, j'ai une fille comme ça qui chantait, qui faisait la comédie musicale à fond, et à un moment donné, je lui demande, je dis, mais tu veux qu'on garde un lycée horaire aménagé ? Ah non, non, surtout pas, je veux que ça reste pour le plaisir. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, de se dire, on peut être passionné de quelque chose, et
bien
que ça
sûr.
Reste surtout gratuit, dans le plaisir, sans recherche de performance, etc. Et ça, pareil, il faut peut-être qu'on y soit un peu attentif, de pas vouloir trouver un talent absolument à nos enfants, ça c'est une pression qu'on leur fait un peu porter aussi, qu'il faut qu'ils soient originaux, talentueux.
De toute façon, est-ce qu'on peut se dire quelque chose ce matin ? C'est qu'on fait ce qu'on peut, on fait au mieux,
ça, c'est sûr.
Et puis après, de toute façon, ce sont eux qui trouveront leur chemin. Un grand merci à tous nos invités ce matin d'être venus donner des conseils précieux pour essayer de démarrer une année scolaire sur de bonnes bases. Marine Darnat, un grand merci pour vos conseils. Je rappelle que vous avez fondé le cabinet 100% Visio, un cabinet pluridisciplinaire pour répondre aux besoins des enfants et des parents. Elodie Adler, votre prochain ouvrage « La santé de mon enfant sans stress » apparaît chez Attier le 17 septembre et votre podcast « Pediatime » qu'on pourra découvrir le 2 septembre prochain. Gwenaëlle Boulet, on ne vous retrouvera pas dans Grand Bien vous fasse à la rentrée, mais la bonne nouvelle, c'est que Ma vie de parent va sortir en BD le 17 octobre.
Grand Bien vous fasse, un podcast France Inter.